Guy Scarpetta.
Aragon, qui a perdu ses illusions vis-à-vis de l'utopie soviétique qu'il avait souvent défendue, y compris dans la surenchère. Je me souviens de discussions, par exemple, avec un écrivain comme Daniel O'Keefe, qui m'a toujours reproché l'admiration que je portais à Aragon, parce que, selon lui, quelqu'un qui avait fait l'éloge du GPU
et de Staline était
a priori discrédité. Et moi, j'essayais de montrer que l'esthétique d'Aragon était finalement plus proche de lui qu'il le croyait. Bon, il y a cette prise de distance, qui est aussi une prise de distance vis-à-vis de la conception étriquée du réalisme qu'il avait défendue et promue auparavant, et qui s'est manifesté au début des années 60, à la fin des années 50 et au début des années 60, par cet étrange roman qu'est La Semaine Sainte, où il réinvente de fond en comble les règles du roman historique, et par cette très très étrange poème qui s'appelle Le Fou d'Elsa, qui est à mon avis une sorte d'objet non identifié dans l'évolution de la poésie française. Et puis arrive La Mise à Mort au printemps 65...
C'est un des plus beaux romans du XXe siècle.
Alors, moi je le pense, mais je crois aussi que il faut voir le choc que ça a pu produire dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il y a le nouveau roman qui est en pleine évolution. Bon, c'est la grande époque créatrice de Claude Simon, par exemple. Mais c'est aussi l'époque où il y a, en particulier sous l'effet des ruses tactiques d'Alain Robbe-Grillet, une certaine dogmatisation du nouveau roman. C'est l'époque où Robbe-Grillet vient de publier le manifeste pour un nouveau roman qui tend un peu à dogmatiser et, je crois pouvoir dire, à stériliser les découvertes formelles du nouveau roman et à en faire une sorte de théorie... historiciste, comme ça, je dirais une théorie qui crée des interdits plus qu'elle n'ouvre des voies. Pour les gens de ma génération à l'époque, j'avais 19 ans, le nouveau roman, on est perplexe. Et puis il y a les ennemis du nouveau roman, on croit toujours que le nouveau roman tenait le haut du pavé, mais pas du tout, le nouveau roman a toujours été minoritaire en France, c'est-à-dire les hussards, c'est-à-dire François Sagan, c'est-à-dire l'académisme, c'est-à-dire l'idée que toutes ces novations formelles sont étrangères à la pensée française et c'est en reconduisant la tradition stendhalienne comme s'il ne s'était rien passé depuis le début du 19e siècle que le roman a des chances d'exister. Bon, et la situation semble un peu bloquée. Entre d'un côté ce
entre
néo...
Entre deux académismes.
Voilà,
en fait,
entre deux académismes. Bon. Et à ce moment-là, ce vieil homme publie ce livre qui apparaît comme un coup de tonnerre. L'épicentre romanesque, à mon avis, est en train de se déplacer à l'époque. C'est le moment où quelque chose de très très fort est en train de naître en Amérique latine. Mais ça, à Paris, on ne le perçoit pas encore très bien. Il faudra attendre 68, il faudra attendre 100 ans de solitude pour qu'on commence à voir. Bon, Fuentes a déjà écrit quelques-uns de ses très grands livres, Borges aussi, Carpentier aussi, mais l'indécrottable chauvinisme français fait que tout ça semble un peu exotique. Bon, Aragon publie La Mise à Mort, et c'est un livre phare. Et à mon avis, c'est un livre phare, non seulement parce qu'il dépasse cette querelle dont je parlais, mais aussi parce que c'est un livre qui ouvre des voies qui, à mon sens, encore aujourd'hui, sont loin d'avoir été exploitées. Alors, pourquoi? D'abord, c'est un livre qui a une formidable construction polyphonique, où différentes voix se mêlent, où différents registres se mêlent.
Avec d'ailleurs un modèle musical.
Avec un modèle musical, c'est du grand art de construction polyphonique, c'est du grand art de construction par contrepoint, avec en particulier l'insertion au cœur du roman de trois nouvelles semi-autonomes, qui s'appellent les Contes de la Chemise Rouge, dont un qui est absolument magnifique, qui s'appelle Le Carnaval,
qui
est une évocation à l'occasion d'un récital de Richter interprétant le carnaval de Schumann des années où Aragon était soldat dans l'armée française d'occupation en Allemagne et d'une histoire d'amour qui a mal tourné, enfin une histoire d'amour où on sent à la fois l'écho d'Apollinaire, l'écho de l'Apollinaire rénan.
Et où Aragon se moque de lui-même.
Et oui, se moque de lui-même. Et où il y a cet extraordinaire mélange, c'est lui, de sensibilité romantique et d'ironie Saint-Denis. Ou alors il y a ce second collage d'une nouvelle semi-autonome qui s'appelle Oedipe, et où là il retrouve la grande veine ironique, insolente, fantaisiste du surréalisme, purement et simplement, de ces grands textes surréalistes, de textes comme Le Libertinage par exemple. Donc c'est une construction polyphonique extrêmement subtile, extrêmement musicale, et qui n'a pas d'équivalent en France à l'époque. Bon. Il y a le grand thème, hein, le grand thème de la dualité, puisque au fond le personnage est dédoublé, c'est un jeu de miroir, il y a un homme qui est amoureux d'une femme, et il y a un autre homme qui est lui-même, mais qui est une sorte de double de lui-même qui aurait perdu son reflet dans les miroirs. Bon. C'est un peu la vieille histoire de Peter Schlemihl qui revient, la vieille légende allemande qui revient, c'est aussi l'allégorie, hein, de quelqu'un qui porte le masque, et qui finalement commence à saisir que le masque n'est pas ce qui cache la vérité, mais ce qui produit un effet de vérité. Et cette dualité, ce jeu de masque, ce jeu de on pourrait presque dire d'hypocrisie, qui a amené Aragon à sans cesse jouer des différentes facettes de ce qu'il était, il en fait un thème romanesque. Et c'est le grand thème des hommes doubles qui était déjà présent dans Aurélien, et qui là se radicalise, devient paroxystique, et amène un véritable brouillage de la voie narrative, qui est tout à fait passionnant. Il y a le mélange des styles, qui est quelque chose d'étonnant. La poésie est avalée par la prose. Non seulement parce qu'il y a des poèmes qui sont collés dans le roman, mais parce qu'il y a une rythmique poétique, des rimes internes, une densité métaphorique qui sont présentes pratiquement à chaque page. Et puis, il y a, dans ce mélange des styles, il faut souligner, je crois, ça c'est important, l'intégration du ton oral.
Hein, la voix.
La voix. On a fait, et on continue à faire, c'est un peu un lieu commun, dans l'histoire de la modernité romanesque, comme si le seul qui avait intégré le langage parlé à l'art du roman, non pas en copiant le langage parlé, mais en réécrivant le langage parlé, était Céline. Eh bien, moi je crois que si on lit La Mise à mort, avec ces interpellations du lecteur, qui font souvent penser à Diderot, avec ses exclamations, avec ses phrases interrompues, avec ses familiarités, avec ses manières de faire des digressions, de noyer le propos, puis de le reprendre, en fait, etc. Il y a toute une part de langage parlé qui est, je dirais, l'autre voix par rapport à Céline.
Il y a des gens qui disent maintenant que je parle une langue populaire. Je ne sais pas où ils ont pris ça.
Oui.
Le drôle de peuple que voilà, c'est que tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que j'écris le langage parlé. Alors, le langage parlé, c'est, croit-on, le langage du peuple.
Populaire, oui.
Je ne fais aucun effort pour parler autrement que je ne parle moi. Dans l'article de Jacques Brenner à Aux Écoutes, il a dit une chose que je sais exacte, mais que personne n'avait jamais dite. À savoir que ce que j'écris, l'emploi du langage parlé, chez moi, on ne peut pas dire qu'il vient de Céline, pour cette raison que Céline disait lui-même, à l'époque où il a écrit Le Voyage au bout de la nuit, qu'il avait appris à écrire en lisant Le Libertinage et Le Paysan de Paris. C'était de la part de Céline une expression outrée des choses, ça ne m'échappe pas. Mais enfin, ça prouve simplement une chose, c'est que l'emploi du langage parlé n'est pas chez moi une nouveauté.
Il y a, et ça c'est quelque chose moi, sur quoi j'ai réfléchi beaucoup après, et à partir d'autres références romanesques, il y a une formidable conception du roman comme l'art de l'intégration maximale des discours. Je dirais comme le seul métalangage possible. Il y a dans La Mise à mort des collages de poèmes de Shakespeare, de Lermontov, de Pouchkine ou d'Aragon lui-même. Il y a l'intégration d'une langue poétique, j'en ai parlé aussi, avec ses scansions, ses rimes internes, son lyrisme intégré à la narrativité. Il y a l'intégration d'articles de journaux. Il y a des collages d'actualités. Il y a un moment où le narrateur, par exemple, lit Pékin Information. Et il lit un article sur la grande campagne, on est à un an de l'éclatement de la révolution culturelle, sur la grande campagne lancée par Mao Tse-Tung, un se divise en deux. Et ça se termine ironiquement sur, mais finalement, cette histoire de un se divise en deux, ça me trouble. Comme si ce grand thème de la dialectique maoïste retrouvait cette allégorie de la déchirure et de la division et de la dialectique interne qu'Aragon pratiquait au même moment dans le roman. Il y a une intégration d'éléments biographiques. Il y a dans La Mise à mort des évocations du mouvement Dada, des évocations de ces années allemandes qui à l'époque n'était connu du grand public que par une chanson qu'avait faite Léo Ferré d'un des poèmes du roman inachevé, une des plus belles chansons d'ailleurs, et d'Aragon et de Léo Ferré, qui s'appelle « Ainsi que les hommes vivent », et qu'il développe. Hein, l'évocation de sa découverte de Rilke, du romantisme allemand, comme ça, et du dadaïsme naissant dans sa Rhénanie occupée. Il y a l'évocation, une évocation extraordinaire de l'enterrement de Gorki.
Mais oui.
Avec la présence de Gide, avec Staline, bon, et où en même temps laisse transparaître que même à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30, dans la période la plus militante d'Aragon, il y avait quand même un regard d'une lucidité extrême sur ce qui était en train de se passer. C'est un passage tout à fait fabuleux. C'est-à-dire, il va très loin dans ce qu'il appelle au même moment le mentir vrai. C'est-à-dire l'intégration d'éléments authentiques ou certifiés dans une fiction qui les relativise et en même temps l'insertion de la fiction dans une logique qui arrive à lui faire produire des effets de vérité. Pousser la logique de l'artifice jusqu'à produire un effet de vérité, ce qui est la grande règle, je dirais, du grand roman baroque, de Claude Simon à Carlos Fuentes ou de Philippe Roth à Kenzaburo Oe.
Et du grand théâtre, voilà. c'est un grand thème.
Et de Genet, à la même époque. Eh bien, c'est là, dans ce roman, à travers cette intégration. Il y a l'intégration de l'essai. De ce que Kundera appellera plus tard l'essai spécifiquement romanesque. Il y a des passages de réflexion sur le réalisme, par exemple, sur la nécessité de dépasser les conceptions dogmatiques et étriquées du réalisme, sur Lewis Carroll. Et il y a même, c'est une chose qui m'a frappé, une méditation sur les rapports de Beethoven et de Bettina von Arnim, qui est bizarrement un thème qu'on va retrouver tout récemment dans un roman de Kundera qui s'appelle L'immortalité, et une grande réflexion sur Hölderlin, qui est bizarrement un thème qu'on retrouvera tout récemment dans un grand roman de Solers qui s'appelle Studio. Comme s'il y avait en germe, dans ce roman d'Aragon, cette idée finalement de la nécessité de brouiller les limites entre l'essai et la fiction. Mais il y a, dans la mise à mort, ce qui contre-investit ce risque ou ce danger d'hétéroclite, qui est une formidable construction par thème et variation. Il y a des thèmes récurrents qui prennent des incarnations différentes, il y a des motifs secondaires qui sont reliés d'une partie à l'autre. Bon, que dire? C'est quelqu'un qui a compris à trois quarts de siècle de distance que la grande leçon de Lautréamont pouvait passer dans l'art du roman. C'était déjà l'axe même de la défense de l'infini. Bon. Le livre est brûlé, et sur ses cendres renaît un autre art romanesque, qui est celui de la mise à mort. Mais il y a un dernier point. Il y a un dernier point que je voudrais souligner. Parce qu'on n'échappe pas, quand on parle d'Aragon, à l'image convenue qui oppose le grand artiste, le grand virtuose du langage, et le dogmatique, le policier des lettres, le flic de la pensée, le stalinien insupportable.
Mais oui, on n'y échappe pas.
On n'y échappe pas. Moi, je dirais que quand on lit La mise à mort, on se rend compte d'une chose qui est terrible et qu'il faut commencer à penser, parce qu'à mon avis, on n'a pas commencé à le penser. C'est qu'au fond, ce roman est alimenté par une haine de soi. Et tout l'imaginaire fabuleux, à la fois déchirant, émouvant, drôle, qui s'y déploie, repose sur une haine de soi, mais qui est peut-être quasi pathologique. Bon. Et je crois profondément que cette haine de soi est aussi ce qu'a poussé Aragon vers le stalinisme. C'est-à-dire qu'il faudrait concevoir que, au fond, le grand génie romanesque d'Aragon s'alimente aux mêmes sources que ses pires errements politiques et idéologiques. Et peut-être qu'on pourrait dire la même chose
donc
de Céline.
Donc ce n'est pas une division, à votre avis?
Je crois qu'on pourrait dire la même chose de Céline. Je crois que la grande négativité des romans de Céline, cette espèce de vision totalement apocalyptique du monde et totalement négative du monde, cette espèce de négativité sans reste, est aussi ce qui a poussé Céline à écrire ses pamphlets antisémites. De même que l'espèce de perversion paroxystique de Genet, est-ce qu'il l'a poussé à la fois à écrire des chefs-d'œuvre comme Le Balcon ou Les Nègres et à avoir des positions de défense des terroristes totalement, je veux dire, inacceptables totalement, même délirante à certains moments. Bon, je crois qu'il faut commencer à admettre, et commencer à étudier surtout, la façon dont, chez les écrivains, où on essaye de faire la distinction entre l'errance politique ou l'erreur politique, voire le crime politique ou la complicité avec le crime politique, et le génie ou le talent de l'autre côté, c'est plus compliqué que ça. Parce que souvent, ça s'alimente aux mêmes sources. Et je crois que la mise à mort en est un exemple parfait.